Bonjour à tous. Excusez-moi si je ne suis pas très clair dans ma manière de parler ce matin, mais je me rends compte depuis quelques heures, ça se dégrade. Quand je suis parti chez moi, je pouvais encore parler avec ma femme, mais quand je suis arrivé ici, j'ai salué quelqu'un, j'ai l'impression de plus rien entendre. Alors j'entends très peu, c'est une sorte de rhume, je ne sais pas quoi, c'est un détail, hein. Mais enfin, j'espère que ça ne vous gênera pas. Dans bien des églises, au début de l'année, les responsables de l'église choisissent un texte, un verset biblique ou un passage qui devrait inspirer, conduire l'église pendant l'année qui vient. Je ne sais pas si vous faites ça ici. Bon, peut-être pas, hein. Mais dans l'église où je suis à Tramelan, c'est une tradition. Et c'est le conseil pastoral qui choisit ce texte et puis qui le distribue, puis ensuite on y réfléchit tout au long de l'année pour savoir en quoi il nous concerne et ce qu'on peut en faire. C'est une bonne idée. J'avais déjà vécu la même chose lorsque j'étais pasteur à la Chaux-de-Fonds. Et voilà le texte que le conseil pastoral a trouvé bon de choisir pour cette année. Je vais vous le lire. Et puis ça vous permettra de comprendre pourquoi je vous dis la suite. C'est une parole de Jésus tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 28. C'est donc avant le départ auprès de Dieu, de nouveau, de Jésus. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà le texte que nous, les membres de l'Église, on a reçu. Et quand j'ai reçu, je me suis dit, mais comment je vais faire avec ce texte? Qu'est-ce que je vais en faire? Il est beau, il est vrai, je le crois. Je crois qu'il est encore d'actualité. Est-ce que vous le croyez aussi? C'est pas un texte qui appartient simplement au passé. Moi, je l'ai pris au présent aussi. Mais voilà, il dit qu'on doit se rendre auprès des gens de toutes les nations pour leur annoncer l'Évangile, afin qu'ils se convertissent, qu'ils changent de vie et tout cela. Alors, je me suis dit, moi, à mon âge, comment je vais faire pour aller auprès des gens de toutes les nations? Peut-être c'est pour me donner bonne conscience, mais j'ai en effet annoncé pendant des années l'Évangile dans beaucoup de nations. Et puis maintenant, ce n'est plus le cas. Et c'est ainsi, il y a un temps pour tout. Et puis en réfléchissant, je me dis, mais il faut quand même que je fasse quelque chose. Je suis appelé à annoncer l'Évangile. Mais à qui je vais l'annoncer? Alors là, vous allez me suivre ou pas. Mais dans mon expérience de pasteur et maintenant de membre d'église, je me suis rendu compte depuis des années que c'est vraiment très difficile d'inviter les gens qui ne vont pas à l'église à venir au culte le dimanche matin. Vous avez déjà essayé, c'est difficile, hein? Parce qu'ils disent, mais dimanche matin, c'est le seul matin où on peut se reposer. Et on aime avoir un dimanche matin tranquille, parce qu'on ne doit pas aller au travail, alors se doit encore se lever pour aller dans une église alors qu'on ne s'y intéresse pas, c'est pas motivant. Enfin, je dois avouer que d'inviter les gens pour le culte dimanche matin, les gens qui n'ont pas du tout l'habitude, c'est plutôt difficile. En plus, j'habite un village. Et dans ce village, il y a une belle chapelle, mais il doit y avoir 4 ou 5 cultes par année. C'est quand il y a le 5e dimanche du mois que la paroisse protestante fait un culte dans ce village. Et mon église, elle est pas loin, elle est dans le village voisin, à Tramelan. Mais si je dois encore dire aux gens de mon village qu'ils doivent se lever, qu'ils doivent prendre leur voiture, et puis encore aller dans le village voisin, j'ai peu de chance. Enfin, c'est ce que je pense. puis ça me travaillait quand même, et ça me travaille encore. Je dis, mais dans mon village, qu'est-ce qu'il a? Environ 316 habitants. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Je connaissais les gens de mon village quand j'étais gamin, parce que c'était mon village, mais j'ai voyagé dans le monde, j'ai habité ailleurs, et puis les choses ont évolué, il y a des constructions, il y a de nouvelles rues, et on ne se connaît plus. Et je me dis, mais dans ma propre rue, je vois bien les gens passer en voiture pour aller au travail, pour revenir, tout ça. Et je ne vais pas les arrêter et dire, attendez, hein, je vais vous annoncer l'évangile. Je suis un peu ennuyé. Et puis, j'ai remarqué que ça bouge beaucoup la population, même dans ma rue. Parce que bien des couples se sont séparés. Et puis tout à coup, on voit une déménageuse, et puis un logement qui se vide, il est vide quelque temps, d'après d'autres qui viennent, puis on apprend qu'ils se sont séparés, ou qu'ils avaient deux salaires pour payer l'appartement, mais quand on part, ils n'avaient plus les moyens de payer l'appartement, donc le deuxième part aussi. C'est pas facile d'annoncer l'évangile dans un village comme ça. Alors, je me suis dit, mais il faut quand même que je trouve un moyen. Et j'en ai trouvé un, mais je n'ai pas encore mis en action. Vous allez dire, c'est facile, hein. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de la théorie. Mais je vais quand même vous demander de prier pour que je puisse passer à la pratique, hein. Je fais du théâtre depuis des dizaines d'années. Et j'aimerais annoncer le message de Pâques, de la crucifixion, tout ça, aux gens de mon village, de ma rue. Mais comment je vais faire? On me dit, ben, t'as qu'à passer d'une porte à l'autre, tu sonnes, et puis tu dis, je vais vous annoncer l'évangile. Mais je ne suis pas sûr que ça marcherait si bien que ça. C'est ma pensée. Alors j'ai imaginé un autre projet. Je me dis, je ne vais pas dire, venez écouter un ancien pasteur chez moi qui va vous faire une prédication sur la crucifixion et sur Pâques. Parce que je vous dirais, écoute, ça, on n'a pas envie, hein. Les prédications, c'est à l'église qu'on les écoute. Alors, je vais me mettre dans le personnage d'un centenier. Parce qu'il y en a dans les évangiles, hein. J'ai tout l'équipement pour faire semblant d'être un centenier. Un centenier romain. Depuis le casque jusqu'aux chaussures, l'épée, le bouclier. J'ai tout ce qu'il faut. Et mon projet, bien, c'est d'inviter les gens de mon village, en invitation personnelle, à venir voir un spectacle théâtral dans mon salon. On peut accepter, je pense, une bonne quinzaine de personnes. Et puis là, on verra ce qui va se passer. Ou bien, ils vont dire, c'est encore une idée bizarre de vieux bonhomme de la rue. Ou bien, et c'est ce que j'espère, et je prie pour cela, que certains se diront, pourquoi pas, il va nous rappeler ce que c'est la crucifixion, ce que c'est Pâques, sous une forme théâtrale, qu'est-ce qu'on risque? Alors ça, c'est un projet que j'ai. Mais, je vous dis, il ne faut pas être égoïste. Parce que ce n'est pas biblique d'être égoïste. Alors je suis prêt à le faire dans toute la Suisse. Là où des gens voudront m'inviter dans leur salon, j'irai, en tant que centenier, leur raconter ce que j'ai vécu dans la période de Jésus. Que va-t-il se passer? J'en sais rien. Je me suis rendu compte que des médias importants en Suisse se sont intéressés, ils ont entendu parler de ça, et puis ils l'ont publié. Ben, c'est sympa, hein? Mais est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. J'espère. Mais je vous demande, moi je vais vous rendre service, hein, ce matin, vous êtes bien d'accord, hein? Je vais prêcher dans votre église, c'est sympa quand même, hein? Mais je vais aussi vous demander quelque chose, c'est de prier pour mon village. Il s'appelle Le Fuet, en deux mots. De prier pour que je puisse annoncer l'évangile aux gens de mon village. Si vous y pensez, ce serait très bien, parce que la prière, c'est un instrument puissant que nous avons et qui peut changer le cours des événements. Et puis si Dieu trouve bon que je fasse ça ailleurs, en Suisse, j'ai pris le risque de dire je le ferai. On verra ce qui se passe. Mais ça fait quand même pas mal de temps que j'étudie les personnages bibliques, je crois avoir joué ici un mage, hein, il y a quelque temps, je m'étais intéressé au mage, je me suis intéressé au berger, et je m'intéresse aussi au centenier. Alors, ce matin, je vais prendre deux, trois textes en rapport avec les centeniers, parce qu'ils sont vraiment, à mon avis, extraordinaires, les centeniers dont il est parlé dans la Bible. Le premier, dans Luc, chapitre 7, 1 à 10. Un centenier, donc, c'est un chef militaire qui avait une centaine d'hommes approximativement à son service. Un centenier romain, ben, c'était un occupant. Et Israël était ce temps-là occupé par les Romains. Alors voilà ce qui s'est passé. Un centenier, ça se passe donc à Capernaum, en Galilée. Je ne sais pas si vous êtes allé en Galilée. Il paraît que c'est extrêmement beau, la Galilée. Pour plein de raisons différentes, c'est un petit paradis terrestre, la Galilée. Et voilà, le récit se passe à Capernaum. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. C'est grave, hein? Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. » N'oubliez pas, ce n'est pas un Juif, hein, ce centenier. C'est un païen. Hein? C'est un païen romain. Eh bien, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Généreux, le gars, hein? Jésus étant allé avec eux, étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas ta peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il faut savoir que dans la tradition juive, un juif n'avait pas le droit d'entrer dans la maison d'un païen. Et ça, le centenier le savait. Donc il ne voulait pas pousser ou inviter Jésus, il était juif, à venir dans sa maison, ce qui aurait été inconvenant, ce qui aurait été placer Jésus dans une situation difficile. Et c'est pourquoi, pour cela, que je ne me suis pas senti digne, cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. Alors, selon les différents évangiles, en effet, il y a un contact entre le centenier et Jésus. Car moi, ça c'est intéressant le raisonnement de cet homme, de ce centenier. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Et l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis. Et ça c'est stupéfiant. Je n'ai pas trouvé même en Israël quelqu'un qui a une si grande foi. Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Si on lit les différents évangiles sur ce récit, on a encore des éclairages un peu différents. Et ça, c'est intéressant. Jésus, vous êtes d'accord avec moi, a toujours dit que la vérité. Il n'a pas parlé pour faire plaisir ou déplaisir aux gens. Il a parlé de la part de Dieu. Et tous ses mots étaient justes, intégralement. Et toutes ses déclarations étaient parfaitement justes. Il ne se trompait pas. Et voilà que il prend ce centenier romain, qui n'est pas juif, hein, qui n'a pas des ancêtres juifs. Moi, j'imagine la scène, je suis un peu théâtral, hein, je suis d'accord. Le centenier est là, Jésus est là. Il y a eu un dialogue. Et Jésus qui entend la foi de ce centenier, qui dit, tu n'as même pas besoin de rentrer chez moi pour qu'il se passe quelque chose. Tu dis quelque chose, ça se passe. Ça, c'est quand même une foi forte, hein. Et il prend, moi j'imagine, il met peut-être Jésus sa main sur l'épaule du centenier. Il dit, la foule est là, hein. Il dit, je n'ai pas trouvé dans tout Israël un homme qui a une foi si grande que celui-ci. Vous imaginez le choc pour les juifs qui ont entendu cela. Ils disent, mais attends, c'est pas possible. C'est même pas un juif. Il n'a pas des ancêtres comme nous. Et puis Jésus le cite comme un exemple plus grand, plus positif que tout ce qu'il a vu en Israël. Et bien ce matin, ce que je veux dire par rapport à cela, quel que soit votre passé, à vous, quel que soit votre passé, quel que soit le milieu dans lequel vous avez grandi, été éduqué, été instruit, ou pas religieusement, ça n'a pas d'importance. Pour Jésus, chaque personne est une personne aimée, est une personne qui l'écoute, est une personne qui prend, Jésus prend au sérieux la pensée, la conviction de n'importe qui. Et Jésus n'a pas dit à ce centenier, écoute, pose tes armes et puis on parle. Jésus ne lui a pas dit, écoute, tu es un envahisseur, tu n'as rien à faire ici. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire. Ou alors, d'abord, tu changes de métier, puis après j'agis. Rien de cela. Rien. Peut-être que un ou une d'entre nous exerce une profession, vous dites, est-ce que c'est vraiment chrétien? On peut se poser la question. Mais dans le cas présent, il ne se pose pas. Quelle que soit votre profession, Jésus ne vous dit pas d'abord change tout, puis après on discutera. Jésus est prêt à répondre à votre foi. Et qu'est-ce que c'est important de le savoir? Moi aussi, je ne suis pas un juif. Peut-être que d'un côté, j'avais quand même des ancêtres juifs, parce que ma grand-maman s'appelle Lehmann. C'est un nom juif, ça. Hein? Je n'ai jamais fait de recherche. Mais ce que je sais, c'est que Jésus répond, entend nos supplications. Il est sensible à notre souffrance, à notre détresse. Ce centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui était malade. C'est déjà un signe très positif, hein? Parce que des serviteurs, il avait des moyens d'en avoir beaucoup. Donc il dit, bah, celui-là va ouvrir, je retrouve un autre. Mais il aimait ce serviteur. Et ce centenier souffrait de voir son serviteur partir ainsi vers la mort. Donc c'est même pas égoïstement pour lui qu'il demande quelque chose. Mais c'est pour un homme qui, dans la société, ne mérite pas grand-chose, un serviteur, un centenier. Mais Jésus entend sa prière. Elle est simple, hein? Les paroles du centenier sont très simples. Il dit, moi, je donne des ordres, ça ne se discute pas. C'est toi qui donnes un ordre à la maladie, ça ne se discute pas. Et Jésus dit, cet homme-là, il a raison. Il a une vraie foi. Ça, c'est le centenier de Capernaum. Dans ma manière, ce que je ferai quand je jouerai du théâtre de salon, j'imagine, et c'est pas impossible, que le centenier qu'on trouve à un autre endroit, dans Luc 23, Regardez le verset 33. C'est la crucifixion. Qui a conduit Jésus à Golgotha? Les soldats romains. Et qui commandait ce détachement de soldats romains? Un centenier. Et c'est pas impossible. Je peux imaginer, parce que les soldats sont stationnés dans différents endroits dans leur carrière militaire. Ça, on le sait. J'imagine, mais sans en avoir une preuve, que ça pourrait, mais on n'en fait pas une religion, que ça pourrait quand même centenier qui maintenant se trouve à Jérusalem et qui reçoit l'ordre de Pilate de conduire Jésus à la croix. Il obéit. C'est sa mission. Il conduit Jésus jusqu'au calvaire. Dans la montée, il voit que Jésus n'en peut plus, que ça va, qu'il ne pourra même pas être crucifié. Donc il demande à un gars, hein, Simon Tyrène, qui est là, au bord de la route, il lui porte la croix. Il n'a pas le choix, hein. On ne dit pas non à un centenier romain. Il obéit. Ils arrivent à la croix. Selon les ordres, et je pense que le centenier n'a plus dû dire grand chose, parce que l'événement n'était pas exceptionnel. Il y a eu bien des crucifixions. Mais le centenier là, les soldats crucifient Jésus. Imaginez ce qu'a dû se passer dans le cœur, la pensée du centenier. Quelques instants seulement. C'est toujours un centenier, ça pourrait être le même que l'autre. Hein? Il se dit, mais ce Jésus, il a guéri mon serviteur. Et maintenant, je conduis ce Jésus à la mort. Je n'ai pas le choix. Mais vous savez ce qui se passe, hein? Sur la croix. Il y a des paroles encore entre Jésus et les brigands, entre Jésus et les gens qui sont dessous. Et à un moment donné, nous dit la Bible, Jésus a dit, on va prendre le verset 33, lorsqu'il fera arriver au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, les soldats, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et qu'est-ce que Jésus dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon de Jésus est accordé à ceux qui sont en train de le clouer, de l'élever sur la croix. Ça veut dire quoi pour nous? Je ne sais pas quelle est votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie. Peut-être que vous avez une culpabilité pour telle ou telle chose. Et vous dites, mais je ne peux pas pardonner ça, c'est trop grave. J'ai fait trop de mal à telle personne. Je me suis même moqué des chrétiens. Je ne sais pas. J'aimerais vous le dire ce matin. Quelle que soit la faute grave que vous avez faite, Jésus est prêt à pardonner. Vous imaginez ce que c'est important? Si Jésus a pu pardonner à ceux qui étaient en train de crucifier sur la croix, on ne peut pas faire une faute plus grande que celle-là. C'est de mettre à mort le seul innocent que notre terre a apporté. Alors, quel que soit notre passé, notre présent, Jésus peut et veut aussi pardonner ce qu'on a fait. Et ça peut nous libérer de toute culpabilité. Non pas qu'on le mérite, mais parce que Jésus nous aime et veut changer le cours de notre vie pour l'éternité. Mais sur la croix, il y a des heures qui passent, l'obscurité et tout ça. À un moment donné, il a fait nuit pendant quelques heures. Et puis, s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire, on dit la Bible. Ils ont entendu que le voile du temple se déchirait. D'accord, ça c'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé ce voile? Peut-être que vous avez fait des recherches. Moi, j'en ai fait. Et j'ai appris beaucoup de choses au sujet de ce voile. Quelle grandeur il avait, pour commencer. Parce que si c'est un voile comme celui-là, bon, ben, il se déchire, et puis voilà. Hein. Mais ce voile avait, d'après les historiens, 18 mètres de haut. 18 mètres. Il avait entre 8 et 9 mètres de large. Et il avait l'épaisseur d'une main. Donc, ce n'était pas un petit tissu. Hein? D'après un historien contemporain, même s'ils avaient attelé des chevaux à chaque bout du voile pour tirer, ils n'auraient pas pu le déchirer. Impossible. Trop solide. Et c'est ce voile-là qui s'est déchiré du haut en bas. Vous imaginez le bruit que ça a pu faire? Alors là, on comprend qu'à Golgotha, ils ont entendu. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Aucune force humaine ne pouvait déchirer ce voile. Et même des animaux puissants n'auraient pas pu le déchirer. Et puis, si vous imaginez qu'il y avait 18 mètres de haut, le bruit s'est étendu du haut en bas. Ça a dû faire un bruit, un déchirement terrible. Ce voile pesait, moi je ne veux pas maintenant donner les kilos. Ce que je sais, c'est que la tringle en or qui tenait le voile et qui avait 8-9 mètres, elle pesait 250 kilos. Et quand il voulait, parce qu'il pouvait y avoir des saletés qui salissaient le voile, il fallait le laver. Mais j'en avais plusieurs, puis il les remplaçait. Pour laver le voile, il fallait au moins 200 prêtres. Parce qu'il était grand, difficile à laver. Le centenier, il connaissait plein de choses. Il savait que ce voile existait. Il savait plein de choses. Il était, sa mission, c'était la sécurité de Jérusalem. Il était au courant de tout. Il connaissait Jésus. Il l'avait suivi partout dans Jérusalem. Il était au courant de tout. Quel est le premier homme qui confesse sa foi en Jésus quand il est mort? Ben, c'est le centenier. Le centenier, verset 47, donc c'est après que Jésus écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et d'autres traductions, « Cet homme est le Fils de Dieu. » C'est un païen, un militaire, un colonisateur, un envahisseur, un de ceux qui a activement participé à la crucifixion de Christ. Dans l'évangile dit, il était innocent. Assurément, cet homme était innocent. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Dieu n'a pas de limite. Dieu ne met pas les frontières où on les met. Saint centenier est lui aussi un exemple extraordinaire. Je ne sais pas, ça aurait pu lui coûter cher de dire ça. Parce qu'en disant, cet homme était juste, il est le Fils de Dieu. Il a envoyé lui, il a dit un certain nombre de paroles comme ça. Ça aurait pu le mettre, peut-être, ça l'a mis en conflit direct avec Pilate, qui est Hérode, qui était un homme sanguinaire. Mais il confesse sa foi. Quoi qu'il advienne, qu'il se passe n'importe quoi avec lui, moi je vois cet homme dire, je ne peux plus le retenir. Maintenant, ce que je croyais au fond de mon cœur, je le dis et je le crie, et il faut que tout le monde l'entende. Dans le texte que j'ai reçu de l'Église, il est dit qu'on doit annoncer la parole de Dieu. Est-ce qu'on va l'annoncer dans la période de Pâques? Je vais essayer. Mais je vous dis que j'ai un peu la frousse, hein? Parce que c'est quand même stupide ce que je dis là. Depuis mon enfance, je vis l'Évangile, je témoigne pour l'Évangile. Qu'est-ce que j'ai pas tout fait? En Suisse, à l'étranger, dans d'autres continents. Et puis tout à coup, je me dis, est-ce que j'ai le courage de faire pour les gens de ma rue? Ça, c'est la question, hein? C'est facile d'annoncer l'Évangile à tous les autres comme ça, mais à ceux qui sont proches, à nos voisins, à ceux qui habitent notre maison. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont plus parler après ça? Mais j'en sais rien. On imagine faire même deux soirées pour les couples qui ont des petits-enfants. Pour qu'ils puissent les deux avoir l'occasion de venir sans avoir un problème avec le bébé. Parce qu'il y a deux bébés qui sont nés de la maison d'enfants qui sont nés au mois de janvier. Confessez Jésus, c'est ce qu'il nous demande. Et Pâques, ça vaut la peine d'y passer assez tôt. Moi, j'aime cacher les œufs pour les rechercher. J'aime surtout les cacher. Des fois, je ne sais plus où je les ai cachés. J'aime le côté, je dirais, commercial de Pâques. Le lapin au chocolat, s'il est noir, j'aime bien. Oui, quoi. J'ai rien contre. Chacun fait son boulot, hein. Les commerçants, ils vendent. Nous, on joue, c'est génial. Mais est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire aussi? Est-ce que notre mission principale est de dire aux gens, d'une manière ou d'une autre, voilà ce que Jésus a fait pour moi, pour vous, ça vaut la peine d'y penser. Et pourquoi pas d'avoir un acte de foi vis-à-vis de Jésus. J'espère de tout mon cœur pouvoir le dire théâtralement. Et puis maintenant, je ne vais pas parler du troisième. Il est tout aussi croyant, c'est Corneille dans le livre des Actes, hein. Il est aussi généreux celui-là, d'après le livre des Actes, au chapitre 10. Mais je le mets de côté pour aujourd'hui. Mais il y a l'armure du chrétien, Ephésiens 6. Et ça, c'est intéressant. Là, c'est l'apôtre Paul, hein, qui décrit ce que doit être un chrétien. Comment il doit s'équiper pour sa vie chrétienne. Et c'est intéressant de voir l'exemple qu'il prend. Ephésiens 6, verset 13 et suivant. Voilà. Pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu nous offre si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. L'armure divine. C'est quoi une armure divine? Selon l'apôtre Paul, il le dit. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture, la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Dans les textes originaux, quand l'expression d'être équipé, c'est en permanence. C'est pas de temps en temps je m'équipe pour annoncer l'Évangile. Il vous dit, soyez toujours prêts. Toujours, de nuit, n'importe où, la semaine, le dimanche, soyez prêts à vivre l'Évangile, à vivre vos convictions. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez prêts, toujours prêts, à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole. Et les promesses de Dieu. Eh bien, si vous imaginez, pour moi c'est facile maintenant, parce que je me suis équipé, j'ai tout, hein. Eh bien, toute l'armure, elle est défensive. Tout est fait pour se protéger. Derrière, devant, sur la tête. Il n'y a qu'un objet qui est offensif, c'est l'épée. C'est seul. Et une épée, si on y réfléchit, c'est une arme offensive, mais du corps à corps. Pensez-y. C'est pas un lance-pierre. Parce qu'il y a des armes où on peut tirer à distance déjà de ce temps-là. Mais c'est une épée. Ça veut dire qu'il faut être prêt, non pas à zigouiller nos voisins, hein, mais à utiliser la parole de Dieu pour être proche d'eux, pour les toucher avec la parole de Dieu. Je suis journaliste, j'écris beaucoup d'articles chaque semaine, il y en a qui sont publiés sur toutes sortes de sujets. J'ai écrit plein de billets qu'on appelait religieux dans l'Express, l'Impartial. Là, dans le fond, j'utilisais toujours l'épée, mais à distance. C'était facile, hein. J'atteignais entre 20 et 30 000 personnes par un coup d'épée. Mais dans le fond, c'était pas difficile du tout. Bon, j'ai eu des réactions assez violentes, des fois. Mais pas grave, hein. Mais là, il est dit qu'on doit être équipé. On doit... Et l'exemple que l'apôtre Paul prend, c'est l'équipement d'un centenier. Tout simplement. Alors, chers amis, il faut que je m'arrête en vous disant ceci. Prions pour que la parole de Dieu ne soit pas simplement une belle parole dans les semaines et les mois qui viennent. Si je n'arrive pas à l'annoncer, j'ai vraiment honte. Moi qui ai tellement fait de choses pour annoncer la parole, si je ne suis pas fichu de l'annoncer aux gens de ma rue, ben je suis un piètre chrétien. Et j'aurai honte. Bien sûr, je ne peux pas les obliger. Ça, c'est clair. Mais au moins, de les inviter avec affection, avec amitié, ça, je peux le faire. Et je vous laisse ceci comme un sujet de prière. Parce que après, dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre dit « Priez pour moi, pour que quand j'annonce l'évangile, je le fasse avec les mots justes, avec hardiesse. » Et je vous invite à prier pour tous ceux qui annoncent l'évangile dimanche après dimanche ici. De prier pour ceux qui annoncent l'évangile à l'étude biblique, pour ceux qui... Priez pour ceux qui ont une responsabilité missionnaire, auprès, au loin. Ils doivent faire partie de notre prière, de notre combat spirituel. Alors ce matin, un peu égoïstement, c'est vrai, je vous dis priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, dans les semaines et les mois qui viennent, d'annoncer l'évangile avec hardiesse, avec honnêteté, de façon à ce que des gens acceptent avec joie Jésus-Christ dans leur vie. Que Dieu nous bénisse et que dans sa grâce, il permette que beaucoup de personnes, nos voisins, nos locataires, des collègues de travail, entendent l'évangile dans les semaines et les mois qui viennent. Dieu vous bénisse. Amen.